Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 24e épisode de Popol. Et pour ce 24e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Iseline Fourtic-Dutard. Bonjour Iseline.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va très bien, je suis enchantée de faire ça avec toi aujourd'hui.
Moi aussi, est-ce que tu peux nous parler de toi s'il te plaît?
Eh bien écoute, avec plaisir, donc Iseline Fourtic-Dutard, je suis militante féministe depuis un bon moment, je travaille... au Sénat. Je suis collaboratrice parlementaire de Laurence Rossignol, qui est ancienne ministre des Familles, de l'Enfance, des Droits des Femmes, qui est vice-présidente du Sénat et qui est une féministe reconnue pour sa capacité à embêter le monde régulièrement dès qu'elle considère que les droits des femmes sont mis en cause ou que l'ordre établi du patriarcat lui nuit et nuit à la cause des femmes. Donc c'est au quotidien beaucoup de bonheur et beaucoup d'apprentissage et de sororité. Je fais partie également de l'Assemblée des femmes, qui est une association qui se mobilise pour la défense des droits des femmes dans la sphère politique, notamment, et qui organise des universités, qui organise des sessions de formation et d'échanges sur les sujets qui sont les sujets du moment, par exemple. Pour notre dernière université d'automne en 2019, on a parlé télétravail, on a parlé crise sanitaire, on a parlé vieillissement des femmes et on a parlé écologie et féminisme. Donc c'est une association qui vise vraiment à nourrir le débat d'idées et à créer de la pensée féministe complexe. Parce que la complexité n'est pas un gros mot et la pensée complexe, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, contrairement à ce que pensent un certain nombre de dirigeants politiques de notre pays. Et voilà, puis je suis également élue municipale à Cachan. Je m'occupe de mes sujets préférés, donc les droits des femmes. Et je gravite dans un certain nombre de réseaux féministes au quotidien parce que c'est là que je trouve qu'on est le plus en capacité de faire preuve d'imagination et de subversion face aux inégalités, face à l'ordre établi, et c'est ça qui me passionne. Voilà.
Génial, merci beaucoup. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claire Rabès. Bonjour Claire.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Très bien, ça va.
Tu nous parlerais de toi s'il te plaît?
Oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, ça tombe bien. Comme Iseline, féministe, alors on n'est pas féministe, on le devient. Donc, ça fait quelques années qu'on se bat pour ça et c'est pour ça que je suis aussi ravie d'être présente avec vous ici. Sinon, je m'engage pour l'unité de la gauche. C'est d'actualité en ce moment, à mon humble niveau, évidemment, mais on va y arriver et il le faut parce que je suis aussi très engagée du coup sur les questions de justice sociale. C'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Et je crois que si on était un peu plus tous égaux dans le monde, eh bien, et en France au départ, eh bien, ça serait quand même pas plus mal et on vivrait mieux. Donc pour ça, je suis secrétaire nationale du Parti Socialiste depuis 2019 maintenant et actuellement en charge du portefeuille donc de l'artisanat, du commerce et des TPE. Et par ailleurs, je suis présidente de Point d'Ancrage. Point d'Ancrage, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées. Existe de 2012 et ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur certains sujets, notamment les institutions européennes, l'engagement. On travaille beaucoup actuellement sur l'organizing américain et donc tout un tas de sujets sur lesquels évidemment tout le monde est bienvenu de nous rejoindre. Donc je vais faire un peu de pub, c'est évidemment www.pointdancrage.org et n'hésitez pas parce qu'on est pas mal de jeunes professionnels et d'étudiants qui se regroupent pour évidemment essayer de réfléchir et puis de déterminer quelques actions aussi auprès des élus et des personnes évidemment engagées sur la scène publique, mais aussi auprès des associations, etc. Donc sur le terrain, on essaye d'être présent à notre niveau. Et sinon, professionnellement, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, je suis engagée dans le sport, dans le secteur du sport, et je travaille dans une organisation qui s'appelle France Sport Expertise, et c'est pour valoriser l'engagement et le développement économique du sport. Donc, je travaille pour des entreprises en France et à l'international, donc sur les marchés du sport à l'international.
Super, merci beaucoup Claire. Et enfin, on a le plaisir de recevoir aussi Emma Rafovitch. Bonjour Emma.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, merci. Et toi?
Ça va, merci. Est-ce que tu nous parlerais de toi, s'il te plaît?
Oui, alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis super contente de pouvoir discuter aussi avec Iseline et Claire aujourd'hui. Moi, j'ai 25 ans, je suis militante depuis quelques années maintenant. C'est vrai que quand on a 25 ans, on ne croit pas, mais moi, j'ai commencé au lycée. J'ai commencé, on va dire, à militer d'abord dans des organisations antiracistes. Parce que quand j'étais au lycée, dans le fin fond de la Seine-et-Marne, en fait, on a été confrontés en tant que lycéens à quelques problèmes, on va dire, de racisme, d'antisémitisme, de discrimination. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à la politique, ou en tout cas au militantisme. À cette époque-là, en plus, du coup, c'était Sarkozy qui était président. Et assez naturellement, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage pour que ça change. Et c'est pour ça que je suis arrivée à l'époque au mouvement des jeunes socialistes. Ce qui était une très très belle expérience. À l'époque, j'étais au lycée en Seine-et-Marne, mais j'habitais en Essonne, et donc c'est là-bas que j'ai milité. Et donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis étudiante au CELSA, qui est une école de communication, et du coup, je suis militante au Parti socialiste dans le 11e arrondissement, où j'ai aussi la chance, enfin le privilège d'être élue aussi depuis juillet dernier. Je suis adjointe au maire et je m'occupe notamment des questions de culture, d'artisanat et de patrimoine. Ça me fait dire qu'il faut qu'on parle artisanat avec Claire. Et aussi, du coup, je suis déléguée nationale du Parti socialiste à la mobilisation des jeunes. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes sur ce 24e épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes. On va parler des états généraux de la laïcité qui ont été récemment annoncés, dont le lancement a été récemment annoncé par la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Et enfin, nous parlerons aussi des déclarations d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier thème, qui est celui des États généraux de la laïcité. Marlène Schiappa a lancé le 20 avril dernier les États généraux de la laïcité. Pendant 3 mois, des tables rondes et des groupes de travail se tiendront autour de cette question qui a tendance à déchaîner les passions. Ces États généraux arrivent quelques semaines après l'annonce de la non-reconduction de l'Observatoire de la laïcité et dans un contexte particulier, puisque le projet de loi séparatisme est encore en discussion au Parlement. Le lancement de ces États généraux a fait l'objet de nombreuses critiques et a créé une situation de tension entre la ministre et le président de la République, qui n'aurait vraisemblablement pas été averti du projet avant de lire l'annonce dans le JDD, comme tout le monde, dimanche dernier. De nombreuses associations et syndicats ont décidé de boycotter cet événement en considérant qu'il vise à servir un agenda politicien. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce débat est nécessaire? Et si oui, doit-il vraiment avoir lieu maintenant? Emma, qu'est-ce que tu penses de ça?
En réalité, je suis assez partagée. Je trouve vraiment que la thématique de la laïcité, elle est passionnante. Globalement, son histoire, comment est-ce qu'aujourd'hui elle s'articule? C'est un sujet qui, je trouve, est vraiment passionnant et auquel il faut qu'on s'intéresse. Moi, ce qui m'interroge dans la période et dans la manière dont il est posé par Marlène Schiappa, c'est quand même cette articulation avec le débat parlementaire. Je trouve ça complètement hallucinant de lancer un débat qui est censé impliquer les citoyens, impliquer des associations, alors que le texte est déjà présenté à l'Assemblée. Si on pose un débat, et je pense que c'est une très bonne idée en soi de faire des débats, d'impliquer les citoyens, d'impliquer des associations, d'impliquer les intellectuels, il faudrait le faire honnêtement. Et moi, c'est ça qui me dérange dans la démarche. J'ai l'impression que c'est le coup de com'. Encore une fois, c'est un peu un outil pour montrer que Marlène Schiappa est très investie sur cette question de la laïcité, au moins autant que le serait Jean-Michel Blanquer, au moins autant que le seraient d'autres acteurs. J'ai l'impression que la manière dont sont posés ces états généraux manque d'honnêteté. Il ne manque pas forcément d'intérêt, mais la manière dont ils s'articulent avec le débat parlementaire, la manière dont c'est posé dans le débat, manque de sincérité. C'est en tout cas l'impression que j'en ai.
Ouais, Isine, j'imagine que tu as aussi suivi ces annonces et ce lancement. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors déjà, moi, je suis un peu fatiguée des programmes et des feuilles de route gouvernementales qui sont a priori réservées au JDD parce que j'ai du mal avec cette manière de faire de la politique et de fonctionner toujours à l'annonce permanente avec le coup de com' qui chasse le sujet précédent et qui vise à toujours occuper la scène médiatique. Moi, je pense que la laïcité, c'est une notion et c'est un principe de vie de notre collectivité et que des états généraux en soi, enfin pourquoi pas, mais je veux dire, on a effectivement un projet de loi séparatisme qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi, c'est le Parlement qui fonde les débats sur la manière de vivre notre vie en collectivité et je suis assez habituée dans le cadre de mon travail au mépris assez permanent du gouvernement vis-à-vis du Parlement. On en a là un exemple supplémentaire, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup de dévoyer ce que fait le Parlement au service d'états généraux et qui sont en réalité un nouveau coup de com' de notre gouvernement, alors même que la laïcité étant un principe fondamental de notre République, le droit parlementaire et l'exercice de nos libertés via la représentation nationale en est un également. Donc moi j'ai un petit peu de mal avec ce brouillage permanent et avec le fait voilà d'annoncer on fait les états généraux parce que c'est comme ça qu'on va redéfinir le contrat social. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait des annonces, on suit la manière dont notre démocratie fonctionne et c'est comme ça qu'on arrive à garantir le respect des principes républicains de mon point de vue. Donc moi je suis gênée par la démarche. Je suis gênée qu'on se serve toujours de ce thème pour créer un débat qui souvent nourrit des sentiments d'exclusion et qui se nourrit des sentiments de séparation au sein de notre société, qui nourrit des fractures. La laïcité, pour moi, c'est avant tout le vivre ensemble. Or, c'est pas de cette manière-là dont je ressens le débat républicain actuellement. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, la place qu'a pris le terme séparatisme dans le débat public, qui est finalement une notion auquel on est confronté depuis seulement quelques mois. Et moi, je suis navrée, je pense qu'on est dans une société qui, par ailleurs, traverse une crise sanitaire politique, économique et sociale majeure. Le séparatisme, il est là, c'est le renforcement des inégalités, c'est le chômage, c'est le fait de se sentir exclu parce que on a l'impression que nos élus sont toujours à contre-courant ou même que notre gouvernement n'a pas de respect finalement pour l'intelligence collective. On fait face à des doubles discours, on fait face à des annonces contradictoires. Donc voilà, des états généraux de la laïcité, why not? Mais si c'est simplement pour faire de la com, réveiller des sentiments qui sont des sentiments d'exclusion et faire monter des phénomènes d'intolérance, j'en veux pas.
Oui, c'est sûr. D'autant plus que lorsqu'on prend en considération le fait qu'il y a cette quand même trentaine d'associations et de syndicats qui ont décidé de boycotter les états généraux, on peut quand même se poser la question de la légitimité d'une telle démarche après cette annonce. Claire, comment tu perçois ça, toi ?
Bah, tu as tout à fait raison de souligner le fait que les organisations syndicales, donc pas des moindres hein, quand même, la CFDT, la FSU, UNSA Éducation, donc en plus des organisations qui sont dans le cadre de l'éducation. Et si on rappelle ce que c'est que la laïcité, c'est d'abord une liberté de croire ou de ne pas croire, et donc qui est le garant, comme l'a dit Iseline et comme l'a dit Emma, de notre fraternité en fait, et donc de pouvoir vivre ensemble. Et un thème qui m'est cher, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si on est tous égaux devant ça, c'est aussi grâce à l'école républicaine, où effectivement on nous inculque dans le droit, dans l'éducation civique, ce pourquoi existe ici. Donc par notre histoire, c'est d'abord pour nous protéger, et ensuite évidemment de comment on doit la respecter et comment on peut aussi la faire vivre, cette laïcité. Donc le fait que 28 organisations, donc 28 c'est quand même pas rien, ça veut signer un texte en accord, en réaction, donc assez rapidement au lancement de ces états généraux de la laïcité. Donc ça a été dit, mais je crois qu'il y a un vrai problème de méthode. Si la laïcité rassemble, il aurait peut-être fallu informer d'abord ces organisations et puis peut-être le président de la République, en effet, ça aurait été utile. Mais du coup, sans information, je ne vois pas en quoi on rassemble. Et du coup, forcément, ça interroge la sincérité de la démarche. Et puis en plus, on l'a dit, il y a une autre question au-delà de la forme, c'est le fond. c'est-à-dire quel est l'objectif de ces états de la, de généraux, pardon, de ces états généraux de la laïcité. C'est modifié la loi de 1905, et là Iseline l'a très bien dit, il y a un projet de loi en cours, donc il n'est même pas encore adopté ce projet de loi, donc peut-être qu'il y a là quelque chose qui brouille les pistes et qui n'est pas nécessaire. Et donc, on peut, en tout cas, moi, je me pose légitimement, je crois, la question de l'instrumentalisation de ces états généraux à un an de la présidentielle, de l'élection présidentielle, bien entendu, dans un électorat qui, évidemment, penche vers le centre droit pour Emmanuel Macron. Et on sait très bien que ce sont, seront des thèmes qui plaisent. Donc, évidemment, on invoque et on instrumentalise aujourd'hui, on essaie d'ériger un peu en fait cette laïcité en un totem, et je ne pense pas que c'est en, justement en érigeant un totem qu'on arrive à faire vivre la laïcité et à la faire accepter. Donc aujourd'hui, bien sûr, hein, il ne faut pas être naïf, il y a des problèmes de respect de la laïcité, notamment dans certains quartiers populaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une histoire d'immigration française où on a quand même rassemblé des vagues de personnes issues de l'immigration dans des quartiers où il y a un problème de présence des services publics, où il y a des problèmes d'injustice sociale et économique, et qui crée forcément un sentiment de rejet parfois de la société, ou en tout cas d'éloignement de la société et de notre vivre ensemble, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Donc pour moi, ça, c'est pas en invoquant la laïcité qu'on va y arriver, c'est en invoquant d'autres politiques publiques, une politique publique de la politique de la ville qui doit être justement plus ambitieuse, avec des services publics présents, des bibliothèques, des associations. Et je crois que Emmanuel Macron, dans son quinquennat, a fait drôlement mal à certaines associations d'éducation populaire. Et donc, je crois que c'est plutôt effectivement là qu'il faut aller, et que cette laïcité ne devienne surtout pas incantatoire et qu'elle perde de sa superbe. Donc, je crois qu'on devrait un peu la laisser tranquille.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment sur l'aspect totem de la laïcité. Moi, je vois ça depuis le début, hein, de la part du gouvernement. Une approche excessivement dogmatique, en fait, avec des critères un peu prédéfinis de qu'est-ce que devrait être la laïcité, un peu comme on l'entend nous, et qu'est-ce que ça ne devrait pas être, etc. Et je suis parfaitement d'accord avec toi sur l'aspect, la nécessité de faire société, en fait. Et comment on fait société ? C'est en permettant à des gens de se rattacher au wagon. Si on est dans un système qui fait qu'il y a de fait de l'exclusion et qu'on n'est pas dans une société inclusive, il est, je pense, normal qu'un certain nombre de personnes se sentent rejetées et ne se sentent pas appartenir à cette société et ne se conforment pas à ces principes républicains qui restent quand même assez flou aussi, enfin, c'est un peu casse-gueule. Bref, et discuter aussi de l'avenir de la laïcité sans toutes ces organisations, moi, ça me choque beaucoup. Emma, toi, tu penses que dans ce contexte, est-ce qu'il ne serait peut-être pas intéressant de revenir en arrière et de considérer que finalement, on va droit dans le mur et que ça va être une espèce de discussion d'un entre-soi des potes un peu du gouvernement, je sais pas quel est l'objet en fait pourquoi maintenir ce débat comme ça, quoi.
Mais je crois que personne n'a la réponse, personne ne sait pourquoi maintenir, personne ne sait pourquoi le faire comme ça. Après, je vais être peut-être trop pessimiste, mais on a quand même, on a avec ce gouvernement quand même l'expérience de, on lance des choses, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais on les lance. On ne sait pas ce qu'on va en faire, forcément, ces grands débats. On ne sait pas ce qu'on va en faire de ces états généraux de la laïcité, mais on les fait parce que sur le moment, il y a peut-être eu en tété Twitter un jour l'idée que ce serait un bon plan com pour Marlène Schiappa. Moi, c'est un peu cette impression que j'ai, c'est que parfois, on agite des grands débats, des grandes polémiques, des grands sujets qui, encore une fois, méritent sans doute qu'on s'y attarde, méritent qu'on réfléchisse, méritent qu'on y intègre des réflexions avec des acteurs associatifs, des acteurs, des parlementaires, des jeunes, qu'on y intègre beaucoup de gens. Mais malheureusement, on le fait d'une telle manière où ce qu'on recherche, c'est peut-être juste la jolie photo à la fin. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup, c'est aussi ce que ça dit de l'attention qu'on porte, de l'intérêt qu'on porte à la parole politique, à la parole des acteurs publics. On est quand même dans un pays où, de jour en jour, on a de plus en plus une défiance immense vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que faire ces états généraux de la laïcité de cette manière-là ça aille dans le sens de réduire cette défiance. La laïcité, c'est un, je crois, un concept républicain dont on peut toutes et tous. C'est un concept qui est aussi là parce que c'est un moteur de l'émancipation. Moi, je viens d'une famille qui est arrivée en France et où la laïcité, ça a été extrêmement émancipateur pour pouvoir être citoyen et citoyenne dans l'espace public sans être toujours rajouté à son identité réelle ou supposée. Je crois que c'est extrêmement fort de ce que ça dit de la promesse républicaine. J'ai l'impression que malheureusement, quand on nous pose ce débat-là de la laïcité, comme ça, de manière extrêmement brute sur la table, on oublie aussi de dire que malheureusement, la République, elle ne tient pas toutes ses promesses. Et que le travail qu'on a à faire, c'est pas celui de dire, il y a des principes, on prend ou on prend pas, et si vous prenez pas, vous êtes des méchants anti-républicains. Là, c'est pas ça, aujourd'hui, normalement, la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est comment est-ce que nous, parce que enfin, je pense que c'est un nous, on est là, on est militante, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que cette promesse républicaine, elle soit réelle, elle soit palpable. C'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la fraternité, la sororité, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que parfois, on nous pose des débats de manière extrêmement dogmatique sans se poser la question de leur application réelle. Et moi, je n'ai pas entendu parler, par exemple, de ce qu'on va faire pour aider les enseignantes et les enseignants dans leurs cours d'éducation civique avec leurs élèves, alors que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps. Comment est-ce qu'on va faire en sorte aussi qu'on arrête peut-être très concrètement d'aider des organismes intégristes, je pense par exemple en Ile-de-France à Sens Commun qui est financé, qui est extrêmement aidé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sujets et je trouve qu'on est à chaque fois on n'est plus dans le concret et on aurait besoin sans doute de se ramener à de revenir à l'expérience réelle et concrète dans la vie de tous les jours des citoyennes et des citoyens français.
Ouais, absolument, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est clair. Et Iseline, tu voulais réagir?
Oui, moi je pense que ce que dit Emma sur la laïcité comme moteur d'émancipation, c'est très juste, parce que convoquer des états généraux autour d'un terme qui lui aussi est très générique, il faut arriver au concret. Or, qu'est-ce qu'on voit aussi concrètement sur le sujet de la laïcité? Premièrement, c'est que c'est un principe qui est dévoyé par un certain nombre de dirigeants et de responsables politiques dans la stigmatisation d'une religion, il faut dire les choses. La laïcité, on s'en sert comme moteur d'exclusion régulièrement vis-à-vis de la religion pour stigmatiser des croyances et des pratiques, et on sait que ça crée des souffrances, que ça crée que ça crée des freins au projet républicain et au projet de vivre ensemble. Donc il y a quand même ça qu'il faut dire. Il faut aussi se rappeler que on instrumentalise aussi ce thème pour marcher sur les plates-bandes du Front National de manière trop régulière, et qu'en faisant ça, on donne des cautions de bienséance au Front National et à l'extrême droite, et que c'est un danger et que c'est un piège dans lequel on doit, nous, militantes socialistes, jamais tomber, mais dont on doit avoir toujours, conscience. Et puis surtout, moi, j'aimerais bien qu'on parle de laïcité et de religion catholique, comme l'indique Emma quand elle fait référence à Sens Commun. J'aimerais bien qu'on parle de laïcité et de défense du droit à l'IVG. J'aimerais bien qu'on parle de tous ces sujets-là. Or, ça n'existe pas dans le débat public actuellement, et c'est quelque chose qui me met très régulièrement en colère. Puis enfin, Comme tu l'indiquais au début de ton propos, Léa, Marlène Schiappa est ministre de la Citoyenneté. C'est le ministre de la Citoyenneté qui fait des annonces tous les quatre matins sans qu'on soit tellement certains et certaines des effets concrets par la suite. Moi, j'ai en mémoire sur l'aspect états généraux, consultation, le grand débat national à la suite des Gilets jaunes. Qu'en est-il? Est-ce que ça a servi à quelque chose pour le fonctionnement démocratique et républicain de notre pays? J'en ai pas le sentiment. Quid de la Convention nationale climat, dont on sait que les décisions et les recommandations sont assez largement passées à la trappe, donc sont assez largement passées à la trappe. Quid de tout ça? Pourquoi continuer à annoncer des états généraux alors même que derrière les conclusions et ce qui en ressort ne sont pas suivis des faits, à moins que ça soit simplement pour animer le débat public et créer des mirages créer des mirages républicains qui, derrière, ne déboucheront sur rien. Voilà, moi, c'est ma crainte actuellement.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. C'était un éclairage assez intéressant. Et il est vrai qu'on a quand même tendance, à chaque fois qu'on parle de laïcité, de stigmatiser la religion musulmane. Et effectivement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder un peu ce que nos amis catholiques font? Parce que quand même, enfin, on le voit, quoi. Et en plus, je suis désolée, mais ils sont quand même assez forts pour se rendre visibles, hein, lorsqu'ils se font des grosses réunions sans masque pour la messe de Pâques et compagnie. Enfin bref, je trouve effectivement qu'il y a... Alors, je ne veux pas critiquer une religion au détriment d'une autre ou inversement, mais effectivement, il y a quand même un traitement de faveur, hein, et un traitement tout à fait différencié, en tout cas, des religions au sein en France, et une grosse hypocrisie par rapport à ça, et j'ai le sentiment que le gouvernement n'est pas du tout prêt à l'admettre. Enfin, bref, on verra la suite, hein, mais ça va être intéressant de voir aussi, effectivement, comment cette question-là du catholicisme, de la religion catholique, se place dans le débat autour de la laïcité. Claire, je te laisse peut-être conclure sur ce thème.
Oui, je vais revenir sur ce que tu disais, justement pour conclure, peut-être, si je peux. C'est qu'effectivement, il y a quand même une stigmatisation d'une population en particulier et d'une religion en particulier. Et encore une fois, elle se retrouve principalement dans des quartiers défavorisés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le principe de laïcité commence à vraiment être dans le débat public depuis quoi, les années 70-80. Donc là où effectivement, on a eu des deuxièmes générations, des troisièmes générations de populations musulmanes qui sont évidemment dans l'histoire multiculturelle, quoi qu'on en dise, de la France. Donc je crois qu'il y a effectivement quelque chose à côté, et c'est son appréciation personnelle de ce que c'est que le signe religieux qui n'est pas défini dans le cadre de la loi. Ce que je veux dire, pour être très clair, c'est que la laïcité ne doit pas souffrir des interprétations personnelles de chacun, mais doit justement être respectée par la loi de 1905 qui existe, et je crois qu'il est le cadre tout à fait nécessaire, même pour la société d'aujourd'hui. Elle n'a pas pris beaucoup de rides, cette loi. Donc arrêtons d'essayer, comme on le disait, de stigmatiser certains à des fins politiques. Cette instrumentalisation, franchement, ça suffit, on en a marre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plus effectivement s'intéresser aux mesures qu'on peut prendre. Avec Point d'Ancrage, ça date déjà un peu, mais produit un assez long rapport sur la laïcité en 2016, en novembre 2016, qui comportait certaines propositions, et notamment ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire par rapport aux autres religions. Par exemple, rééquilibrer le poids de chaque religion dans la répartition des postes d'aumôniers, ou par exemple soutenir le projet de création d'une université musulmane sur à peu près le même modèle que l'Institut catholique ou que l'Institut protestant de théologie. Ce sont par des mesures assez concrètes et de formation aussi, de formation aux faits religieux de tous ceux qui en parlent, c'est-à-dire des enseignants, évidemment, qui sont formés, mais vraiment à quel point le sont-ils et à quel point ont-ils le nécessaire pour être face à des élèves partout en France, justement, et pour réagir au mieux. Je crois qu'on a vu malheureusement que ce n'était pas forcément le cas, que ce soit les enseignants ou leur direction. C'est aussi les médias. Les journalistes qui doivent du coup être mieux formés aux faits religieux, et c'est aussi les responsables politiques. Je crois qu'aujourd'hui, on ne l'est pas assez. Moi, j'ai personnellement fait Sciences Po, et ça arrivait juste à ce moment-là, un séminaire de connaissances, on va dire, sur le fait religieux. Et je crois que justement, malheureusement, ce n'était pas assez. Heureusement, c'est développé maintenant, mais pas encore à un niveau assez fort pour que ce soit réellement pris en compte comme quelque chose de structurant dans l'ensemble des programmes pour tous ceux qui font le débat en fait public français, et donc qui sont quand même d'une manière ou d'une autre responsables de ce qui se dit et de ce qui se fait. Et effectivement, il y a aussi eu des propositions dernièrement du Parti Socialiste sur le Concordat. Donc tout est sur la table, et je crois qu'effectivement le débat est nécessaire, mais le débat apaisé, et peut-être dans un autre cadre que dans l'année qui précède l'élection présidentielle.
Merci beaucoup Claire, belle conclusion. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Iseline pour ces échanges et vos points de vue sur cette question. On va rester dans les trucs sympas et réjouissants en parlant de sécurité. Ça vous va ? Hein ? C'est parti. Le président candidat ou le candidat président a démontré cette semaine qu'il souhaitait occuper le terrain sécuritaire. En la matière, Emmanuel Macron a affiché une posture de fermeté lors d'un déplacement à Montpellier axé sur la sécurité. et au cours d'un entretien accordé au journal Le Figaro. Recrutement de policiers, lutte contre le trafic de drogue, les annonces du président nous laissent entendre qu'il n'a pas prévu de se faire dépasser par ses rivaux à droite et à l'extrême droite sur cette thématique. Avec ces annonces, il semble assez évident qu'Emmanuel Macron cherche à consolider son électorat tout en adressant un message à celui de la droite. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les annonces vous semblent pertinentes et est-ce que vous pensez aussi que le moment est opportun ? Et je vais laisser la parole à Isdine pour commencer sur cette question.
Alors déjà, je pense que la sécurité n'est pas un thème réservé à la droite. C'est la chose. Je pense que c'est très important à gauche que de considérer sans culpabilité ou sans arrière-pensée aucune que la sécurité, c'est un thème de gauche. Parce que la sécurité, c'est aussi l'un des outils de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne vit pas bien ensemble dans notre société si on se sent en insécurité, si on a l'impression qu'on ne peut pas évoluer librement, et si on a l'impression que sortir de chez soi c'est prendre un risque pour son intégrité. Et d'ailleurs, je crois que Michael Delafosse, le maire de Montpellier, le disait lors de ce déplacement présidentielle. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'avais envie de dire. Je crois qu'Emmanuel Macron a également annoncé un grand débat sur la question de la drogue, un grand débat de plus. Il n'y a pas de sujet tabou en la matière. Je pense que la question effectivement du recrutement des policiers, c'est une question qui se pose puisque on sait que les services publics et les atteintes qui sont faites aux services nuisent au sentiment de sécurité, à notre sentiment de sécurité collectif et individuel. Après, moi, je pense que c'est insuffisant parce que je pense qu'on ne parle pas correctement de sécurité si on s'arrête à la question de la drogue ou du nombre de personnes ou du nombre de policiers dans nos rues. Je pense que la sécurité, c'est aussi la justice et c'est aussi permettre au système judiciaire de fonctionner et de fonctionner dans les temps et d'apporter aux victimes comme aux auteurs les garanties qui sont celles de notre état de droit. Et donc, j'aurais aimé entendre davantage le président sur cette question.
Oui, c'est clair. Mais ouais, ça, c'est sûr. Aussi, la justice, il ne faut pas l'oublier. Et puis, la sécurité, c'est aussi, à mon sens, la base, c'est un peu de lutter contre les inégalités. Et ça, c'est ton truc, les inégalités, Claire. Comment t'as accueilli les annonces de notre président et puis son exercice de com' habituel ?
Oui, alors tout à fait, effectivement, on peut se poser la question du moment de l'intervention d'Emmanuel Macron. Encore une fois, on est toujours à un an de l'élection présidentielle, hein, on n'a pas bougé. Et c'est encore une fois, même si le thème intéresse tout le monde et doit intéresser tout le monde, puisque c'est notre quotidien, la sécurité, effectivement, ce thème plaît quand même davantage à un électorat de centre-droit. Donc je crois qu'il n'y a pas d'invention et que c'est une stratégie de communication qui semble à peu près rodé ou en tout cas choisi, puisque rodé, ça on ne sait pas, mais en tout cas choisi par le président de la République pour s'exprimer sur la sécurité. Moi, ce que je trouve quand même très compliqué dans son interview, son interview au Figaro il y a quelques jours, c'est la cohérence en fait de son propos. Très sincèrement, il part d'un constat que je partage, à vrai dire. Il part du constat de la précarité dans certains quartiers qui peut déstabiliser, qui peut amener à des violences du quotidien et qui sont autant de réactions justement aux injustices économiques et sociales dont on parlait. Économiques pourquoi ? Parce que on est éloigné de l'emploi, on est éloigné des services publics, donc ça veut dire des transports, ça veut dire d'un poste de la poste justement ou d'un guichet de retrait de billets, tout ce genre de choses. Et ensuite, il enchaîne, suite à ce constat que je partage, sur la réponse sécuritaire antiterroriste et les réformes qu'il a mises en place, notamment sur les renseignements généraux, etc. Et là, franchement, moi, je n'ai pas compris le lien, d'autant plus qu'ensuite, le troisième élément qu'il ajoute dans le débat, c'est la lutte contre les stupéfiants, qui doit être une sorte de matrice, pour reprendre son mot. Donc là, très, très clairement, moi, je n'ai pas compris où est-ce qu'il allait. Et en fait, je crois que ça définit tout à fait la position d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'en a pas sur la sécurité. C'était déjà le cas dans son programme de 2017. Et on voit qu'il n'a pas véritablement évolué sur le sujet parce qu'il n'y a pas de cohérence En fait, moi, les effectifs de policiers ou de gendarmes sur le terrain, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y en a au contact de la population. Parce qu'en fait, augmenter les effectifs, ça ne veut pas dire que c'est forcément dans les commissariats, justement dans les quartiers les plus compliqués, etc., etc. Non, on n'en sait rien où est-ce qu'ils sont. Donc, ce serait bien d'être un peu plus précis sur ce genre de sujet s'il veut vraiment apparaître, à mon avis, crédible. Et à ce niveau-là, je crois que justement, l'interpellation d'une députée socialiste, en l'occurrence Valérie Rabault, était tout à fait opportune parce que il ne faut pas laisser passer ce genre d'information, de communication, sans qu'elle soit précise et tournée vers la réalité, bah, justement, de ces quartiers, et on y reviendra.
Ouais, clairement. Puis moi, il y a quand même un truc qui manque un peu dans toutes ces annonces. Je vais attendre que le CLEPS se taise. Voilà. Moi, il y a un truc qui manque, je trouve, dans ces annonces, c'est aussi la question de la formation, hein, des policiers. Parce qu'on l'a vu quand même, on a eu des gros sujets de violence policière récemment et tout au long du quinquennat, hein, presque, d'Emmanuel Macron, avec pour couronner le tout l'adoption de la PPL Sécurité Globale. Donc la question de la formation, à mon avis, elle est quand même assez importante. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse autant que moi. Emma, toi, tu vois les choses comment par rapport à ces annonces de Macron ?
Je partage beaucoup de ce que vous avez toutes dit, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet sur ce qui passe dans la tête du président quand il parle de sécurité, parce que je crois qu'on ne vit pas la même réalité. Évidemment qu'il y a un problème dans certains endroits, pour certaines personnes aujourd'hui, de sécurité. Je pense notamment aux femmes qui subissent du harcèlement de rue, je pense aux femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un accueil suffisamment correct dans les commissariats quand elles s'y rendent. Je pense qu'il y a un vrai sujet de formation, tu l'as dit, il faut qu'on arrive à mieux former, je pense aussi par exemple au projet de police municipale qu'on a à Paris, et notamment l'objectif d'en faire une police paritaire. Ça fait partie en tout cas de ces objectifs qu'on a pour faire en sorte que la sécurité soit réelle et soit très concrète. Je suis assez aussi étonnée d'entendre parler d'augmentation des effectifs, alors que Valérie Rabault a très bien rappelé que depuis le début du quinquennat Macron, on est plutôt sur une baisse des effectifs dans la police et dans la gendarmerie.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Encore une fois, c'est le coup de com, et je vous avoue que moi, après quand même 4 ans de Macronie, je commence à être un peu fatiguée par ces annonces qui sortent de nulle part et qui ne sont basées sur rien. C'est assez insupportable. Après, sur la question des drogues et de comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre les drogues, moi, je suis sans doute pas du tout sur la même ligne que le président Macron, moi, je pense que la répression, et en tout cas le tout répressif, n'est pas un système qui aujourd'hui a fait du bien, ou en tout cas a prouvé son efficacité, en France ou ailleurs d'ailleurs. Je serais beaucoup plus pour de la légalisation, ou pour en tout cas penser à des meilleures manières de faire. Il faut qu'on arrive à parler de tous ces sujets. Comment est-ce qu'on forme mieux nos policiers? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une police réellement de proximité? Et aussi, moi, je trouve qu'il y avait tout un volet qui manquait dans l'aspect sécurité, c'était le volet prévention, qui est censé être très important et qui n'était pas du tout présent dans les annonces du président.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant ce débat sur la légalisation et la dépénalisation. Je suis en train de bosser là, sur l'autre podcast sur Place du Palais Bourbon avec l'association Aide, et on est en train de faire un podcast sur la politique des drogues, justement. Du coup, j'ai interviewé tout un tas de députés qui s'intéressent à cette question. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte avec les meufs de Aide, c'est que finalement, les députés qui sont vraiment au fait de cette question, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en train de bosser sur la thématique, je pense à Caroline Janvier, je pense à François Michel Lambert, etc. Et aussi Éric Coquerel qui a sorti une PPL sur la lutte contre le trafic de drogue. On se rend compte que finalement, tous ceux qui sont quand même un peu renseignés sur, et rencardés sur la question sont quand même pro-légalisation. Donc c'est vrai que le tout répressif a vraiment, vraiment pas fait ses preuves, ça c'est certain. Iseline, tu voulais réagir ?
Oui, peut-être rapidement dire un mot. C'est que je pense que Emma dit très justement que la question de la prévention est insuffisamment prise en compte par les pouvoirs publics et par notre gouvernement. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est en multipliant les effectifs de policiers, en annonçant on va recruter 500 policiers et policières ici, 500 là, qu'on résout le problème. Parce que pour moi, la sécurité, ça fait partie d'un projet de société, et la prévention, ça fait partie d'un projet de société. Et par exemple, on parlait des états généraux de la laïcité tout à l'heure, et bien peut-être que des états généraux sur la prévention des violences, ça m'intéresserait un peu plus, sur comment on fait pour que à la fois les policiers considèrent que leur service est reconnu à leur juste valeur, parce que je pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles, ce n'est pas le cas. Et aussi, comment on fait pour que les victimes de violences sexuelles, elles se sentent en capacité d'aller au commissariat pour dénoncer les faits, les infractions dont elles ont été victimes, les violences dont elles ont été victimes. Comment on fait pour que ces victimes, eh bien, elles n'aient pas peur que leur plainte soit refusée ou d'être mal reçu par les officiers et officières de police judiciaire. Comment on fait pour que les personnes qui subissent du contrôle au faciès, eh bien, ne soient pas tout le temps dans un sentiment de défiance vis-à-vis des policiers, d'autant plus avec les récentes affaires de violences policières qu'on a pu connaître dans notre pays. Qu'on connaît par ailleurs à l'échelle, enfin, qu'on a vu là, la décision sur l'inculpation d'assassinat suite au décès de George Floyd aux États-Unis. Donc voilà, donc toutes ces questions-là, je pense qu'elles doivent être posées, et que annoncer simplement le recrutement de policiers et la tenue d'un grand débat sur la drogue, ça n'y répond pas.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu léger, mais bon, Claire, je te laisse réagir aussi.
Oui, non, mais c'est vraiment intéressant le débat sur la dépénalisation, parce que ça fait quand même écho à pas mal de politiques de prévention, notamment sur l'alcool, qu'on n'a pas en France, quoi qu'on en dise. Et donc, c'est intéressant d'aller voir à l'international quand même ce qui se fait. Et j'imagine que vous avez travaillé du coup sur le Canada, mais il y a quand même plusieurs enjeux là. Il y a évidemment la neutralisation des dealers, la force de l'interdiction, mais aussi du coup, forcément, les retombées économiques que ça peut avoir pour financer de la réelle prévention. Justement, et ça c'est véritablement, je crois, l'enjeu justement de la pénalisation, au-delà justement des annonces d'Emmanuel Macron qui encore une fois en fait est dans la posture, puisqu'il est dans une interdiction, dans une position de justement de bon père de famille, hein, puisque j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'il cherche à faire, et j'utilise évidemment l'expression à dessein, mais donc avec effectivement une certaine autorité qui lui serait naturelle sur les sujets. Donc voilà, c'est quand même lancer un sujet qui est extrêmement important et structurant pour encore une population, surtout la plus jeune de la population française. Et je crois qu'encore une fois, là, il y a un souci de bien calibrer l'annonce politique, et surtout de ne pas faire naître, encore une fois, des espoirs, des débats qui vont se retrouver en fait dans une impasse. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à avancer concrètement sur des sujets, et ça en est un. Mais pas sûr qu'effectivement, ni le moment, ni la méthode, encore une fois, soit la bonne. Et pour finir sur la sécurité, c'est pareil, je crois qu'on a tout sur la table. On a le Beauvau de la sécurité qui est en cours, on a le livre blanc de la sécurité qui a été fait fin novembre 2020 et qui a associé tout un tas de personnes, des préfets, des organisations, des syndicats. Donc en fait, utilisons véritablement déjà sur la table des propositions, et puis essayons par contre d'avancer politiquement, et ça, c'est sa responsabilité.
Ouais, c'est clair. Emma, je peux te laisser conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Oui, je crois que beaucoup a été dit. J'ai l'impression qu'on est quand même assez désabusé. C'est-à-dire que finalement, on nous propose mois après mois, semaine après semaine, de nouveaux grands débats, de nouveaux grands coups de com, peut-être avec visuel à l'appui sur Instagram pour nous dire comment tout finalement va bien se passer et comment avec Emmanuel Macron, la France est tenue. Parce que je crois que c'est un peu ça aussi qu'on voit avec toutes ces annonces autour de la sécurité. C'est un élan aussi de comment dire, d'une envie sécuritaire qui n'a rien de très concrète, qui n'est pas très très proche des vrais problèmes, des vrais sujets. Donc moi j'espère sincèrement en tout cas qu'en 2022 on va pouvoir avoir un débat apaisé sur ces questions et qu'on va pouvoir surtout amener et proposer des solutions qui soient adaptées aux problèmes du quotidien de toutes et de tous, qu'on puisse aborder la question aussi du racisme dans la police de manière, je l'espère, apaisée aussi. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas hésiter à regarder tous les travaux qu'ont menés, notamment cette dernière année, SOS Racisme à ce propos. Il y a beaucoup de propositions, notamment en termes de formation. La sécurité, c'est, je pense, une exigence qu'on peut tous avoir envers la République. Et il faut qu'on soit donc exigeant pour que le service public qui soit censé nous l'amener soit exemplaire également.
Super, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir échangé avec moi sur ces deux thèmes. On va maintenant passer à vos actualités, si ça vous convient. Et je vais d'abord donner la parole à Claire. Claire, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Merci Léa. Alors du coup, j'en profite pour faire une spéciale dédicace à Emma aussi et à ma mère, en l'occurrence. C'est un peu personnel. Mais effectivement, je voulais vous parler d'une association Loi 1901, reconnue d'utilité publique, dont la jeune retraitée qui est ma mère est devenue présidente il y a peu. Quelque chose qui lui tient à cœur puisqu'elle est puéricultrice à la base. C'est la maison de la famille au pays de Fontainebleau, puisque je viens du sud de Seine-et-Marne et de Vernoux-la-Celle-sur-Seine et donc de Fontainebleau. Et en fait, cette maison de la famille, elle s'occupe d'accueillir des familles dont les divorces ou les séparations ou en tout cas la situation est très compliquée. Et en fait, cela permet d'avoir un lieu neutre où les accueillir, donc c'est-à-dire les enfants, bien évidemment, et en priorité, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, bref, tout membre actif de la famille. Et donc, ça permet d'essayer de recréer un lien et un environnement de communication. Et je trouve ça particulièrement important. Et comme on l'a dit, ça devrait être du ressort du service public. Mais aujourd'hui, c'est du ressort des associations qui s'en emparent grâce à des bénévoles. Et en l'occurrence, c'est un appel du coup au bénévolat, si ceux qui nous écoutent sont vers le pays de Fontainebleau, donc ou vers l'Essonne. Il y en a même des familles, du coup, par la fermeture de certains centres qui viennent de Sens. Donc, il y a beaucoup à faire. Et donc, il y a besoin de bénévoles, de soutien financier, évidemment, en dons. Des dons en nature aussi, avec des jouets ou du matériel informatique, etc. Et donc je dois bien avouer que je me permets d'utiliser ce moment pour vous faire participer autant que possible à je crois ce tissu associatif nécessaire justement pour notre société, et peut-être plus que des états généraux de la laïcité à ce stade.
Mais tu fais bien.
Merci beaucoup.
C'est très important, effectivement, de relayer ce type d'appel et ce type d'action. Et bravo. Merci beaucoup, Claire. Emma, de quoi voulais-tu nous parler, toi ? Tu vas peut-être nous parler de la même chose, si ça se trouve, alors.
Alors non, tant mieux. C'est un peu ma crainte qu'on ait tous la même BD ou le même disque à conseiller. Mais moi, je suis un peu en manque de culture, je pense, comme beaucoup d'entre nous. J'avais envie de profiter de ce moment pour vous conseiller une bande dessinée, puisqu'on est aussi dans là les quelques jours où on commémore le génocide arménien et où aussi on réfléchit, on va dire, à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui malheureusement sont morts pendant ce génocide en 1915. Et du coup, j'avais envie de vous conseiller une BD qui s'appelle Le fantôme arménien. C'est une bande dessinée qui sort en 2015 pour le centenaire du génocide. Elle a été écrite par Laure Marchand, Guillaume Perrier et Thomas Azuelos. C'est l'histoire d'un voyage mémoriel en Turquie. Et ça raconte du coup ce voyage très très beau d'un homme et de sa femme à la rencontre de ce peuple arménien qui existe encore dans certains endroits de la Turquie, malheureusement, qui essayent de faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont disparu malgré la négation du génocide par la Turquie. Donc c'est une BD que je vous recommande chaudement.
Merci Emma, effectivement c'est un élément très important et tout à fait, tu as raison Claire, je vois ton message dans le chat. Joe Biden vient de reconnaître officiellement le génocide arménien, donc c'est une première pour un président des États-Unis. C'est assez intéressant. Merci beaucoup Emma. Et enfin Iseline, de quoi tu voulais nous parler s'il te plaît?
Et moi je vais vous parler un peu de mon boulot parce que le 6 mai, au Sénat, il y a un débat qui va avoir lieu à la demande du groupe Les Indépendants. Et ce débat, il est sur l'écriture inclusive. Et d'ailleurs, le titre choisi par le groupe Les Indépendants est parlant, puisque ça s'appelle « L'écriture inclusive, langue d'exclusion ou exclusion par la langue ». Donc voilà, donc ça augure de beaux moments en séance. J'avais envie de vous en parler un petit peu parce que je trouve que je suis toujours assez impressionnée par le backlash et la volonté du patriarcat de créer du débat et de l'agitation politique sur des sujets où les féministes, en fait, elles demandent simplement à ce que la société, l'écriture, le langage soient davantage des vecteurs de représentation de l'ensemble de la société, de l'ensemble des femmes et de l'ensemble des hommes. Et donc, le 6 mai, on va parler de ça au Sénat. Je pense que ça augure pas mal de débats intéressants. Je pense que ça va être des joutes verbales aussi et que ça a le mérite. Donc, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre. Et j'avais envie de donner un petit coup de projecteur sur ce moment-là parce que il se passe des choses au Parlement. Je sais, Léa, que tu en es persuadée, que tout le monde en est persuadé ici. Mais on a trop tendance à voir le Sénat comme étant une chambre de seconde zone qui finalement n'est pas si importante puisqu'effectivement le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un endroit du débat d'idées, c'est aussi un endroit où on peut débattre sereinement très souvent. Et donc je ne dis pas que les débats du 6 mai sur l'écriture inclusive seront sereins, mais tout du moins je vous promets une belle bataille des féministes dans la chambre au Palais du Luxembourg, et donc je vous invite à suivre ce débat-là. Voilà. J'en profite pour regretter le parti pris du débat et pour indiquer que quelles que soient les conclusions d'ailleurs qui pourront en sortir, nous les militantes féministes, on continuera à se battre pour que la langue soit aussi un outil au service de nos luttes pour l'égalité. Voilà.
C'est clair, merci Iseline, c'est effectivement un point d'actualité assez intéressant. Et moi, ce qui me fait toujours marrer dans le débat sur l'écriture inclusive, c'est que tout le monde vient dire « ouais, mais en fait, c'est un faux débat parce que ça ne règle pas le problème ». Mais en fait, c'est un faux débat que de dire que c'est un faux débat. Ceux qui parlent, vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça un peu absurde qu'il y en a qui le défendent aussi avec autant de ferveur et avec des arguments complètement pétés en disant que ça ne va pas faire avancer les choses, et qui, eux, décident, parce que généralement, c'est quand même des mecs, hein, donc je dis bien eux, décident de finalement se concentrer sur le fait de lutter contre l'écriture inclusive en considérant que ce n'est pas ça qui fait avancer les choses. Bref, c'est un peu absurde.
Non, non, mais en fait, moi, je voulais ajouter, moi, j'attends avec impatience, je pense que je vais me préparer un bingo, mais j'attends avec impatience l'argument, le 6 mai, sur le point médian, nouvel outil du séparatisme, ou quelque chose de ce style-là. Moi,
je pense qu'il
y aura moyen de beaucoup rigoler.
Ouais, c'est clair, courage. Bien, je vous remercie beaucoup toutes les trois pour ces échanges. C'était un superbe épisode. Et merci beaucoup d'avoir écouté Popol. À bientôt.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.